Donc, un document pour vous aider à prendre des notes. Il y aura aussi la projection à l'écran. Et ce matin, je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais je vais vous mettre au travail. Donc, on va prendre le temps de réfléchir et de travailler par petits groupes. Mais je vois que on est tous matures. Je ne sais pas ce qu'on fait ici, vous faites. Alors, bien sûr, on verra que la maturité, c'est toujours un stade qui peut être considéré comme atteint et comme toujours à atteindre. Mais mon but, c'est pas simplement de vous faire réfléchir sur la maturité vous concernant vous-même, mais c'est de devenir capable nous-mêmes d'accompagner les autres vers la maturité. Parce que si vous choisissez de participer à Théopôle, et je vois des figures habituelles, donc c'est aussi pour non pas simplement recevoir, mais devenir soi-même un accompagnateur et un transmetteur de ce qui est appris. Et donc ma prière, c'est vraiment que ce soit utile et pour nous personnellement et pour les autres à travers nous aussi. Donc je vous invite à commencer par la lecture d'un passage qui est peut-être l'un des passages clés. On va juste le lire. On s'y référera assez souvent. Et si vous voulez aller plus loin, ben, il faudrait à ce moment-là prendre le temps de l'étudier à fond. C'est dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Donc il y a au verset 1, c'est quelques mots. Chapitre 6, verset 1, oui. Oui. Oui, mais j'y reviens. Vous suivez bien, je vois, oui. C'est juste pour attirer votre attention sur cette expression, tendons vers la maturité. C'est vraiment l'exhortation de l'épître aux Hébreux. Et il arrive à cet encouragement après avoir fait le constat de la situation des personnes à qui il écrit. En fait, l'auteur aux Hébreux veut parler de choses, comment dire, exigeantes sur le plan de la réflexion, sur le plan de la théologie. Au chapitre 5, il a commencé dans les versets 1 à 10 à présenter le Christ comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et il commence à se dire, moi je vais aborder des notions qui demande de l'attention, qui demande de la persévérance. Et en même temps, il réfléchit à ceux à qui il va écrire. Il commence à se dire, mais est-ce qu'ils vont supporter ce que je vais dire? Est-ce que ça va être accessible pour eux? Est-ce qu'ils vont même avoir le désir d'accueillir ces vérités? Et malheureusement, il se rend compte que ces personnes à qui il écrit, ce sont des chrétiens depuis plus de 20 ans. Et donc, ils auraient dû être des maîtres. Mais le constat qu'il fait est terrible parce qu'il dit, en fait, vous en êtes venus à devenir des bébés. Vous avez besoin de lait spirituel et non pas de la nourriture solide. Et ce constat ne le décourage pas puisqu'il dit, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas aborder à nouveau les questions de base, parler de la repentance, parler des choses de base. Je vais aborder des questions difficiles et je demande de vous d'être attentif. Et donc, le constat qu'il fait, c'est vraiment que, au bout d'un certain temps de notre vie, nous sommes appelés à atteindre cette maturité. Et si nous ne sommes pas dans la maturité chrétienne, nous devrions nous poser des questions. Et j'espère que ce matin, nous ferons le constat pour chacun de nous que, en tout cas, nous tendons vers la maturité. Alors, lisons ce passage dans chapitre 5, à partir du verset 11. Nous avons beaucoup de choses là-dessus, beaucoup de choses difficiles à dire et à expliquer. Parce que vous êtes devenu lent à comprendre. Un peu dur, hein? Vous en êtes, en effet, excusez-moi, verset 12, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture spirituelle. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Alors, ce mot-là, on va s'attarder là-dessus, c'est le mot mature, d'accord? Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes matures. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons vers la maturité. Peut-être que certains ont tendant vers ce qui est parfait. Voilà. Tendant à ce qui est parfait, c'est la même chose que tendre vers la maturité. Alors, le mot parfait, ça nous fait tout de suite peur. Hein. Parfait, moi, peut-être les autres, mais moi, non. Donc, tendons vers la maturité, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et j'aime bien le verset 3, c'est pour nous ce matin. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. D'accord? Bon, alors, le sujet de la maturité, c'est vraiment un sujet, je suis heureux d'être avec vous ce matin vraiment pour l'aborder. C'est peut-être l'un des aspects les plus importants de la vie chrétienne. Alors, le sujet de la maturité concerne le sujet de la sanctification. C'est un autre mot pour la maturité, la croissance, le progrès spirituel. Mais quand on parle de croissance, de progrès, on parle d'un cheminement. Lorsqu'on parle de maturité, on parle d'étapes atteintes, en tout cas. Voilà, ou en voie d'être atteinte. Et nous avons tous l'habitude, dans les prédications, dans les études, dans les livres, dans les enseignements, d'entendre parler des moyens par lesquels nous pouvons atteindre la maturité. Mais si nous posions la question, mais on parle des moyens pour arriver à la destination, mais à quoi ressemble la destination? Ben, parfois c'est compliqué. Alors, il y a quelques années, donc j'ai écrit le livre sur lequel je vais m'appuyer, mais un petit peu, parce que je voulais pas reprendre le livre. C'est pour ça qu'on va travailler. Donc, il y aura plus de travail. Et j'espère que, si ça vous intéresse, vous pouvez à ce moment-là lire le livre pour avoir vraiment un regard plus complet. Donc, il y a quelques années, en faisant les recherches pour écrire le livre, je me suis rendu compte que beaucoup, beaucoup de livres parlent surtout des moyens par lesquels nous pouvons devenir des chrétiens matures. La prière, la lecture de la parole, le jeûne, etc., etc. Mais si on pose la question, mais à quoi ressemble un chrétien mature? Ah, si on devait faire le portrait du chrétien mature, mais on le dessinerait comment? Et ça, c'est une question importante. C'est sur quoi nous allons réfléchir ce matin. Hein? Donc, quand vous sortirez dans la rue et que vous rencontrerez un chrétien, vous le choperez, vous dites, ah, bah lui, il est un chrétien mature. Parce qu'il à tel et tel trait, telle et telle caractéristique. Donc, ce matin, pour regarder un peu les objectifs, moi d'abord, c'est quoi le chrétien mature? Ah, je vous ai dit que c'était difficile de trouver cette réponse-là. Et c'est vrai que si on n'a pas la destination claire, ben on ne sait pas comment y arriver. Si vous dites à quelqu'un, tu dois aller quelque part sans lui donner les coordonnées de l'endroit où il doit être, ben le chemin peut être difficile à trouver. Donc pour les objectifs ce matin, d'abord, découvrir ce qu'est clairement un chrétien mature. va comprendre que Dieu veut nous y mener, ou nous conduire à la maturité. C'est le plan de Dieu pour chacun de nous. Enfin, désirer profondément que Christ soit formé en chacun, en nous tous. Alors, nous avons lu Hébreux chapitre 5, versets 11 à 6-2. Donc, ce passage nous exhorte à laisser de côté les bases de l'enseignement chrétien. Des fois, il y a des chrétiens, au bout de 20 ans, ils se posent encore la question s'ils doivent se faire baptiser ou non. Je ne sais pas s'il y en a dans l'église, mais j'en ai rencontré, hein. Ah, je ne sais pas. Ah, bah, peut-être. C'est bien dommage. On a besoin de chercher de la nourriture solide qui nous permet de grandir et de tendre vers la maturité. Donc, la maturité du chrétien, c'est vraiment ce que Dieu veut pour nous tous. Donc, on va lire dans Colossiens chapitre 1, verset 28. Est-ce que quelqu'un voudrait lire ce verset, s'il vous plaît? Colossiens 1, 28.
C'est lui que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse afin de rendre tout homme parfait.
Merci. Alors, quel est le mot mature ici? Parfait. C'est le mot parfait, n'est-ce pas? Si vous avez d'autres traductions, par exemple, seconde 21, on traduit par le mot afin de présenter tout homme mature ou adulte, hein, c'est la même chose, à Dieu. Mais quel est le mot que Paul répète plusieurs fois dans ce verset? Il y a un petit mot qui revient plus fort, s'il te plaît. Tout, voilà. C'est le mot tout qui est répété plusieurs fois. Voilà, est-ce que tu voudrais le redire, s'il te plaît?
C'est lui que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse afin de rendre tout homme parfait en Christ.
Merci. En fait, ce verset, c'est presque le verset clé pour l'apôtre Paul. En tout cas, il nous dit que sa mission en tant qu'apôtre n'était pas de convertir les gens, mais de les présenter comme des hommes et des femmes matures à Dieu. Pour l'apôtre Paul, son ministère apostolique, c'était pas de faire des convertis. C'était pas ça, hein. C'était de faire des hommes et des femmes dignes d'être offerts à Dieu. En fait, l'image qu'il utilise ici, c'est comme si les chrétiens, pour lui, étaient ces agneaux qu'on menait à l'autel dans le temple. Mais vous savez que Dieu exigeait que les animaux soient parfaits, exactement. C'est-à-dire intègres, c'est-à-dire dans une intégrité physique globale. Vous savez que le mot « intègre » veut dire « complet », c'est-à-dire il ne manque rien à l'animal. On ne pouvait pas offrir un mouton ou un bœuf avec une patte tordue ou je ne sais pas quoi. Il fallait que l'animal soit parfait dans le sens qu'il n'a aucun défaut. C'est ça l'idée. Et donc Paul dit, mon ministère, c'est d'offrir à Dieu des hommes et des femmes. Mais je ne veux pas les offrir imparfaits. Autrement dit, des hommes et des femmes à qui il manquerait quelque chose. Je voudrais présenter à Dieu en offrande des personnes qui viennent à Jésus-Christ et qui deviennent complets, à qui il ne manque rien, qui n'ont aucun défaut. Ça, c'était vraiment le projet de l'apôtre Paul. Mais est-ce que son but, c'était d'offrir quelques-uns à Dieu qui soient ainsi faits? Non, qu'est-ce qu'il répète? Tout. Je veux que tout homme, toute femme qui vienne à Jésus-Christ devienne une personne adulte, une personne mature, une personne à offrir à Dieu. Et dans l'Église, c'est le travail vraiment de toute la communauté de se présenter devant Dieu comme une communauté adulte, mature. pour louer Dieu, pour l'adorer et pour lui dire, ben voilà, nous venons à toi en offrande que tu agrées et qui ne fait pas honte. Ce qui se passe souvent dans la vie des croyants, dans les communautés, c'est qu'on croit que la maturité est réservée à une élite. Et on a l'impression que dans la vie chrétienne, il y en a qui sont en haut de la montagne, qui marchent comme des gazelles. Je parle de gazelles parce qu'au Maroc, il y a beaucoup de gazelles. C'est l'image de la beauté qu'on emploie au Maroc. Hein. Quand on dit à quelqu'un, à une femme, t'es une gazelle, ça veut dire que t'es vraiment très belle. Donc il y en a, voilà, qui sont comme des gazelles dans les montagnes, qui parcourent légèrement la vie et qui sont extraordinaires. Et puis, la majorité des chrétiens sont où? Dans la vallée, en train de galérer dans la vie chrétienne. Et ils regardent là-haut, on dit, oh, c'est super, oh là là, ça doit être extraordinaire ce qu'ils vivent là-haut. Mais c'est pas pour moi. Et ça, c'est vraiment la plus grave des erreurs qu'un chrétien puisse commettre. La vie mature n'est pas pour une super élite réduite à quelques-uns, peut-être le pasteur pour certains. Non, elle est vraiment pour tous les chrétiens. Et à mon sens, c'est vraiment le premier pas vers la maturité. Déjà comprendre qu'elle est pour moi et non pas pour les autres. Une fois que je vois l'appel de Dieu à la maturité qui me concerne moi personnellement, alors j'ai mis mon premier pas sur le chemin qui va me conduire vers cette maturité. Donc elle est vraiment pour tous. Il y a plusieurs années, il y avait un livre qui était sorti, je crois que c'était MacArthur, et c'était « La vie chrétienne médiocre ». C'est horrible hein, comme titre. Mais c'était un constat terrible fait sur la réalité du christianisme et des églises. Et une vie chrétienne médiocre. Et les chrétiens considèrent que c'est la norme. Vous savez, ce qui est anormal, c'est la médiocrité. Qu'est-ce qui est normal en réalité? C'est la maturité. Et on a fini par inverser en faisant de ce qui est normal l'anormal, c'est-à-dire la maturité c'est anormal, ça appartient à quelques-uns, et la médiocrité c'est ce qui est normal. Mais ça c'est vraiment totalement faux. Et vraiment que le Seigneur nous donne, en tout cas le désir d'aller vers cette maturité en disant, mais elle est pour moi. Dieu veut que je sois un chrétien absolument mature. Regardons Philippiens maintenant, chapitre 3, versets 15 et 16. Voilà, on a mis notre pas sur le chemin de la maturité parce qu'on considère qu'elle est pour nous et maintenant nous avons besoin d'avancer vers cette maturité. C'est ce que Paul dit dans Philippiens, chapitre 3, versets 15 et 16. Est-ce que quelqu'un voudrait lire, s'il vous plaît?
Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas.
Merci. Donc, Paul dit, nous qui sommes des hommes faits, c'est-à-dire nous qui sommes des hommes matures, ou parfaits si vous voulez, ou adultes. Et Paul, juste avant, il a dit quoi? Je n'ai pas atteint... Juste avant, il dit quoi? Je n'ai pas atteint le but, la perfection. Et après, il nous dit, ben, nous sommes des parfaits. Mais on pourrait poser la question à Paul, mais qu'est-ce que tu nous dis? Tu n'as pas atteint la perfection et tu nous dis que nous sommes parfaits. Mais en réalité, les deux tiennent la route. Parce qu'il y a la perfection idéale qui est inscrite dans le ciel, que nous connaîtrons tous, à laquelle Dieu nous appelle. Mais cette perfection, elle est l'objet de notre cœur. Elle est le désir de chacun de nous. Et quand nous tendons vers cette maturité, vers cette perfection, Dieu nous prépare à la perfection finale. Et c'est pour ça que Paul dit, marchons d'un même pas. Marchons vers cette maturité parce que Christ nous attend à la fin pour nous récompenser, pour nous donner le prix de la vocation qu'il nous a présentée. Alors, est-ce que vous avez des questions pour l'instant? N'hésitez pas à intervenir.
Il y a juste un parjour dans la Bible, il y a écrit, quand on parle de désert, vivons en plein accord.
À la fin du verset 7.
Marchons le même pas dans la même direction et vivons en plein accord.
Oui, donc c'est entrecroché. Oui. Alors, ça c'est une question de certains manuscrits dans la Bible qui ajoutent ce point-là, d'accord? Donc la Bible, second 21, ajoute beaucoup de phrases entrecrochées. Oui, c'est pas partout. C'est dans la Bible, le second 21.
C'est un bon conseil.
Pardon?
C'est un bon conseil,
oui. C'est un bon conseil, oui.
Une question par rapport à ce que vous avez évoqué du livre, je crois que c'est pas partout.
Oui.
Est-ce qu'il a été analysé le pourquoi de ce constat?
MacArthur, il fait le constat et puis il analyse et bien sûr il encourage l'Église à passer à autre chose, oui. Lui, il n'est pas satisfait de la situation. Oui. Donc, je vous ai dit que le problème du départ, c'est que beaucoup de chrétiens grandissent dans les moyens, mais rarement dans la vision claire du but de la vie chrétienne. Les moyens, c'est-à-dire que on va constamment entendre dire et s'encourager soi-même à lire, à prier, etc. Mais on va voir tout à l'heure que ce n'est pas nécessairement ça qui définit la maturité. C'est un moyen vers la maturité. Ce n'est pas la maturité. Donc, c'est les disciplines ou les pratiques spirituelles, jeûner une fois par semaine ou faire je ne sais combien de jours de jeûne par semaine, c'est juste un moyen. La discipline spirituelle n'a de sens que si nous avons une doctrine claire et substantielle de la sanctification. Donc je voudrais lire avec vous ce texte que vous avez dans le document. Les disciplines aux pratiques spirituelles n'ont de sens que comme moyen d'atteindre une fin. Faut pas confondre le moyen et le but. Et ils ont peu de sens si nous manquons de clarté sur la fin. Pour chaque pratique spirituelle dans laquelle nous nous engageons, nous devrions être capables de parler de la grâce que nous recherchons à travers cette discipline. Est-ce que c'est clair pour tout le monde là? Oui. C'est-à-dire, si vous lisez la Bible, c'est pas le but en soi de lire la Bible. Le but c'est, mais pourquoi je lis la Bible? Quel est le but pour lequel je lis la Bible? Quand je prie, c'est la même chose. Quand je sers, c'est la même chose. Quand je vais à l'église, c'est la même chose. Si nous parlons d'une grâce spécifique, nous devons être clairs sur ce que nous espérons, théologiquement parlant, que Dieu fasse en nous. La discipline spirituelle n'a de sens que si nous avons une doctrine claire et substantielle de la sanctification, si nous sommes clairs sur le but de la vie chrétienne. Chaque fois que nous faisons quelque chose en tant que chrétien, nous devrions être intentionnels dans ce que nous faisons. C'est-à-dire, quelle est mon intention et qu'est-ce que je recherche à travers ça? Quand je loue avec mes frères et sœurs, quand je suis dans un groupe de prière, quand je demande à ce qu'on ait un groupe de prière chez soi, etc., etc. Mais qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que je voudrais que Dieu fasse en moi à travers ce que je fais? Ça, c'est le chemin ou le moyen et puis la fin. Alors, pour vous faire réfléchir, sur la maturité, je vais vous présenter quatre portraits. D'accord ? et vous avez pour chaque portrait des questions. Donc, on va lire les portraits et après, vous vous arrêtez sur les questions qui vous sont présentées. D'abord, la première question, selon vous, quelle personne reflète le plus la maturité? Deuxième question, quel est le portrait qui vous semble le plus trompeur? C'est-à-dire, il donne l'impression de la maturité, mais c'est pas la maturité. Quels indices repérez-vous pour discerner un chrétien mature dans ses portraits? Et puis, à la fin, on regardera ensemble ce que cela révèle sur notre propre compréhension de la maturité. Bon, on va lire les quatre portraits. Et après, peut-être que par table, vous pouvez prendre 5 minutes de dire qui sont ceux qui semblent matures, ceux qui ne semblent pas. Donc, question 1 et 2. Et puis, la question 3 rapidement. Donc, on prend... J'aurais voulu avoir plus de temps, mais on va prendre juste un peu de temps. Donc, premier portrait. Marie. Marie lit la Bible chaque jour, participe à tous les cultes et sert dans l'équipe de louanges. Mais dès qu'on la reprend ou qu'on contredit son avis, elle se vexe rapidement. Elle se décourage facilement et ses émotions la dominent souvent. Portrait B. Thomas parle peu, mais quand il parle, c'est toujours juste. Dans les réunions, il n'impressionne personne par sa connaissance ou sa parole. Il prie fidèlement pour les autres, encourage discrètement, sert sans publicité. Il ne cherche pas à se montrer, mais on sent chez lui de la douceur et une sagesse tranquille. Les gens se confient spontanément en lui. Samir aime la théologie. Vous avez... Joseph. Oui. Ben, je dis Samir, hein, parce qu'il faut quand même mettre un nom. Mohamed aime la théologie. Donc, Joseph, oui, on va rester avec Joseph. Alors, c'est un nom arabe aussi, hein. Youssef, voilà. Joseph et Youssef. Alors, partons pour Youssef, d'accord? Donc, Youssef aime la théologie, lit beaucoup, connaît bien sa doctrine. Mais dans les discussions, il reprend constamment les autres. Il critique souvent l'église et le leadership, mais sert peu lui-même. Chez lui, il étudie beaucoup, mais il prie peu. Il ne demande jamais conseil. Il croit savoir. Il sait beaucoup, mais sa manière d'être blesse souvent. Il y en a qui se disent « Ah, mais c'est mon voisin !» Non, c'est pas... C'est pas votre voisin, hein. Anna traverse des moments difficiles. Elle n'est pas toujours régulière dans ses disciplines, mais elle reste sincère. Elle demande de l'aide quand elle en a besoin. Elle confesse ses faiblesses au groupe de prière. Elle lit la Bible moins régulièrement qu'elle le voudrait, mais quand elle la lit, elle cherche réellement à obéir à la parole. Elle lutte, mais avec un cœur enseignable et dépendant. Bon, c'est pas très compliqué, n'est-ce pas? Bon, est-ce que vous voudriez prendre 5 minutes juste pour répondre donc aux questions, surtout les indices numéro 3 et numéro 4 éventuellement? Voilà, je vous affiche les questions. Bon, désolé de vous interrompre, mais... Voilà, c'est histoire de vous mettre l'eau à la bouche. Vous allez avoir plus de travail juste après. Alors, juste par groupe, rapidement, qui semble être mature? C'est très difficile. B. Portrait B, c'est Thomas. Et Anna. Alors, vous avez dit Marie. J'ai entendu Marie. Marie est mature?
Non.
Mature. Anna, d'accord. Oui. Alors, ouais, il y a des maturités qui sont en chemin. Ah, Marie, peut-être qu'il lui manque encore des choses, mais en tout cas, elle est disponible. Elle est vraiment une personne qui a entendu l'appel de l'Épître aux Hébreux tendant vers la maturité. Thomas, c'est la maturité silencieuse. Voilà, il est, c'est le gars discret qu'on ne voit jamais, mais qui est là à faire vraiment les choses bien comme il faut. Et puis les portraits trompeurs. Alors pourquoi ces trompeurs? Oui, c'est l'apparence, effectivement. Alors, qu'est-ce qui donnerait l'impression que Yosef ou Joseph est mature? Alors, il aime la théologie, il aime la doctrine, il est capable de parler de plein de choses. Mais qu'est-ce qui montre qu'il est vraiment immature? Ah oui, c'est quand même l'orgueil. Et l'une des caractéristiques les plus importantes dans la Bible qui montre la maturité, c'est l'humilité. S'il y a une caractéristique qui devrait vraiment apparaître dans la vie d'un croyant, c'est l'humilité. Pourquoi? Parce que le chrétien mature, c'est celui qui ressemble à son Seigneur. Et le Christ, c'est l'homme humble et doux. C'est celui qui est vraiment capable de se mettre au service de ses disciples et de leur laver les pieds, et non pas le contraire. Alors, qu'est-ce que vous avez noté comme indice qui vous permette de discerner la maturité? Alors, le premier indice, hein, pour vous aider, c'est justement l'humilité, d'accord? Alors, qu'est-ce que vous avez noté d'autre? L'obéissance à la parole. Plus fort, s'il vous plaît. La sagesse.
Il n'attend pas de reconnaissance. C'est pas des choses pour
être. D'accord. Voilà, on fait les choses sans attendre de reconnaissance. Le service des autres, oui. Enseignable, oui. Alors ça, c'est vraiment, ça, c'est la qualité qu'on doit cultiver. Vous savez que je parle de moi-même, hein, parce que des fois, quand on croit savoir, on ne veut plus être enseigné. Mais quel que soit notre niveau de sagesse, d'avancement dans la vie chrétienne, on doit avoir un cœur qui désire apprendre. Et pour avoir fait l'expérience, on apprend souvent de ceux qu'on aurait tendance à presque mépriser. Hein. C'est peut-être pas le mot, mais parfois on dit « Ah ben lui, il ne peut rien m'apprendre ». Et dans des échanges comme ça, on voit qu'il y a vraiment une sagesse derrière ces personnes et qu'ils parlent d'or et qu'on reçoit de leur part des encouragements que nul autre n'aurait pu nous donner. Qu'est-ce que vous avez marqué d'autre? La sincérité. La douceur, d'accord. La paix avec les autres. D'accord. La relation avec les autres. La discrétion. D'accord. La prière pour les autres, oui. La patience. Voilà, il y a le fruit de l'esprit. Voilà, il y a beaucoup de critères comme ça, mais vous avez remarqué que tous ces mots que nous avons cités se rapportent aux traits de caractère, à l'être, pas tant au faire qu'à l'être. Et c'est ça le problème que souvent nous commettons, enfin, le problème qui nous est posé, et c'est la question numéro 4, hein, c'est que parfois, si nous interrogeons des chrétiens comme ça, c'est quoi pour toi un chrétien mature? Ah ben il lit la Bible, il prie, etc., etc. Mais ça, ce sont des choses qu'on fait. Mais le caractère est le plus important et c'est ce qui détermine notre maturité, et c'est ce que Dieu veut travailler en nous. Et donc, je reviens là-dessus, il ne faut pas confondre les moyens avec le caractère que Dieu veut former en nous. Ça ne veut pas dire que les moyens ne sont pas importants, hein, mais les moyens sont les moyens. On peut lire la Bible tous les jours et être un goujat, hein, mais vraiment un chrétien horrible, insupportable. Et ça, c'est pas du tout un trait de maturité, loin de là, hein, c'est l'immaturité. Oui, c'est exactement ça. Ça sera jamais fini. Ça... Alors, je m'arrête là-dessus parce que ça, c'est une question importante. Et je crois que dans le livre, je donne cet exemple. Bah, il est arrivé que je sois invité dans un camp de ski dans les Alpes. Et là-bas, on m'a dit, pendant l'hiver, hein, moi, je suis un citadin, hein, on m'a dit, mais tu sais, là-haut, il y a un lac, il est juste extraordinaire, il est gelé et c'est magnifique. Tous les jours, on m'en a parlé. Je dis, mais ce lac doit être vraiment la beauté suprême, quoi. Il va falloir que j'y aille. Et tout seul, comme un grand, je me suis décidé à monter vers le lac. Donc, j'ai pris la voiture, je suis allé au pied de la montagne, j'ai laissé la voiture. Au bout de 200 mètres, la route était barrée parce qu'il y a eu une avalanche de neige. Oh, j'ai dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou non? Non, bah, je vais continuer quand même, je me décourage pas. Donc, j'ai grimpé par-dessus la neige qui était dure, dangereuse. J'ai retrouvé mon chemin, j'ai continué, il n'y avait pas de neige. Et petit à petit, la neige commençait à s'accumuler sur le chemin. Ah ben, je me suis paumé. Je me suis complètement perdu. Heureusement que j'avais le téléphone, et donc avec le GPS, j'ai pu retrouver mon chemin. Mais je vous assure, j'ai eu peur, hein. J'ai galéré parce qu'il n'y avait personne. J'ai dit, mais comment je vais faire? Et puis, vous savez qu'à ce moment-là, qu'est-ce que vous vous posez comme question? Ah, il va falloir que je reprenne le chemin, hein, parce que là, ça commence à devenir compliqué. Il commençait à faire vraiment froid, mais je me suis dit, il va falloir absolument que j'arrive à ce lac. Et en continuant mon chemin, voilà que des personnes arrivent en face de moi. Et quand je les vois, bah, c'était la respiration, le soulagement, enfin! Alors, il est encore loin le lac, ils me disent, non, 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 il n'est pas loin, vas-y, tu peux continuer. Vous savez quand dans la montagne, quand on vous dit, c'est pas encore loin, faut pas faire confiance, hein. Mais bon, ça m'a encouragé, et je me suis dit, bon, je continue. Et quand je suis arrivé, c'était juste, mais vraiment sublime. C'était juste beau. J'étais seul. C'était d'une blancheur éclatante et magnifique. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai rebroussé chemin immédiatement pour dire, ben, j'ai vu, je redescends? Non, en réalité, j'avais prévu un pique-nique et je me suis assis et je suis resté là à admirer le paysage, à aller à droite et à gauche parce que le lac n'était pas très grand. Bref, j'ai exploré cet espace. Et j'ai vraiment pris du plaisir à être là. Et je me rappelle que c'est peut-être l'un des moments les plus joyeux spirituellement parlant dans ma vie. Parce que quand vous êtes dans cet espace-là, vous ne pouvez qu'admirer Dieu. En disant, mais Dieu, mais c'est vraiment sublime ce que tu fais. C'est juste extraordinaire. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais mon aventure, en fait, c'est l'aventure du chrétien. Hein? C'est pas le voyage du pèlerin, mais presque. Et c'est vrai que quand on se convertit, dès qu'on prend le chemin pour aller justement vers là-haut, parce que les chrétiens vous disent, c'est fabuleux, il y a le royaume de Dieu, il est extraordinaire, il faut que tu y ailles. Bon, ben, je veux y aller. Et qu'est-ce qui arrive? Dès les premiers pas, vous avez des... Ah, des avalanches, des problèmes, des tempêtes dans la vie. Et ça décourage, mais on a besoin de continuer. On peut même s'égarer sur le chemin. Mais Dieu nous a donné sa parole qui est notre GPS, qui nous ramène sur le chemin. Et nous sommes en marche vers la maturité. Et quand on est vraiment découragé, qu'est-ce que Dieu fait? Il met sur notre chemin des hommes et des femmes qui nous disent, mais non, ne rebrousse pas chemin, continue, tu vas voir, c'est juste extraordinaire là-haut. Et ça, c'est vraiment le rôle de chacun de nous, de nous encourager mutuellement en disant, non, 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 on continue, parce que là-haut, c'est extraordinaire. Et quand on arrive là-haut, ben en fait, c'est le stage, pour moi, c'est le stade, l'étape de la maturité. La maturité, ce n'est pas l'étape que j'atteins et après je meurs. Parce que souvent, c'est ça. Hein, c'est, ah ben, je suis mature, c'est à la fin de ma vie. Non, en réalité, la maturité, c'est une étape dans la vie du croyant qui lui permet d'explorer véritablement le royaume de Dieu. Dieu veut nous conduire à un endroit pour que nous ouvrions des portes que nous ne voyons même pas lorsque nous ne sommes pas matures. Dieu, il veut nous faire bénéficier de toutes les bénédictions qu'il a préparées pour nous, et ces bénédictions, nous ne les recevons pas si nous ne sommes pas matures. Prenez le problème de la souffrance, on y reviendra. Parfois, la souffrance pour nous, c'est le problème numéro un dans notre vie chrétienne. Mais si nous ne sommes pas matures, effectivement, nous n'allons pas voir les bénéfices à travers cette souffrance. Si nous sommes dans un stade de maturité, la souffrance agira différemment pour nous et nous en recevrons les bénédictions que Dieu prépare pour nous. Donc, ce que je veux dire, c'est que la maturité, c'est une étape, mais ce n'est pas la fin. Ça ne veut pas dire que nous avons atteint le stade final et on n'a plus rien à découvrir. Au contraire, c'est un niveau qui nous permet de voir Dieu autrement, de vivre la relation avec Dieu autrement, de vivre l'Église autrement. Alors, si on se pose la question « suis-je mature ?», c'est une bonne question. C'est une bonne question que nous avons tous besoin de se poser en disant « mais moi, je voudrais vraiment être dans ce chemin de la maturité ». Si nous considérons la maturité comme la perfection totale, où il n'y a aucun défaut, etc., aucun péché, ça, c'est pas ce que la Bible dit. La maturité, c'est un état, et c'est un caractère que Dieu développe en nous et qui nous permet de voir l'invisible. Quand on est au début de la vie chrétienne, on a une relation formidable avec Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez lorsque vous vous êtes converti. Enfin, moi, quand je me suis converti, c'était juste extraordinaire. Mais en réalité, je ne connaissais pas Dieu comme je le connais aujourd'hui. On est d'accord qu'on ne connaît pas Dieu, même si notre relation avec lui est vraiment chaleureuse et pleine d'amour, ben nous ne connaissons pas le tout de notre Seigneur. Et en avançant dans la vie chrétienne, notre amour s'approfondit parce que notre connaissance de Dieu s'approfondit. Et donc, pour répondre à ta question, c'est que Moïse a vu des choses extraordinaires avec Dieu. Moïse a vu la mer s'ouvrir en deux, les 10 plaies. Et quand il était dans le désert avec le peuple, vous vous rappelez la demande qu'il a faite à Dieu? Fais-moi voir ta face. Mais on peut dire à Moïse, mais qu'est-ce que tu veux de plus, quoi? T'as vécu ce qu'aucun homme ne pourrait vivre. Tu as parlé avec Dieu bouche à bouche, comme dit la parole. Mais plus on connaît Dieu, plus on l'aime, notre maturité nous donnera envie de faire la même prière que Moïse, en disant « Mais Seigneur, fais-moi voir ta face. » Autrement dit, fais-moi découvrir qui tu es encore plus. Et si notre cœur aspire à ça, c'est le chemin de la maturité. C'est la maturité. Mais la maturité, c'est pas « Ah, ma Seigneur, j'ai assez vu de toi, je comprends tout, je connais tout. » Non, c'est ben en fait, je me sens plutôt petit quand je me mesure à Dieu, quand je me mesure au Seigneur. Donc, nous reprenons maintenant la maturité, notre compréhension de la maturité, c'est que parfois nous associons la maturité avec l'activité dans l'Église, le niveau de connaissance, les performances spirituelles, l'assurance extérieure, la capacité à parler fort ou à enseigner. Mais tout ça, ce ne sont que les réalités extérieures qui disent peut-être quelque chose du caractère, mais elles ne disent pas tout le caractère. La maturité chrétienne réelle, c'est plutôt quelque chose d'intérieur avant d'être extérieur. C'est quelque chose qui a lieu dans le caractère avant d'être dans les capacités. Elle est dans le fruit de l'esprit avant d'être dans le savoir. Elle est dans l'humilité avant d'être dans les performances. Et elle est dans l'amour avant d'être dans le ministère. On peut être un chrétien qui fait tellement de choses dans l'Église, mais on peut les faire avec amertume, avec presque avec colère contre les autres. Moi, je fais, mais les autres non. Mais ça, c'est pas du tout un indice de maturité. On peut faire peu de choses, mais les faire dans l'intention d'aider les autres, de les édifier, de les accompagner. Ça, c'est vraiment le signe de la maturité. Dieu a voulu l'Église pour ça, pour l'édification mutuelle, pour le soutien mutuel. Alors, souvent, on peut entendre ça et on peut comprendre. C'est vrai que on vient au monde avec un caractère, mais je suis convaincu que par la nouvelle naissance, Dieu change petit à petit notre caractère. C'est ce que nous allons voir. Et vous savez, hein, souvent, malheureusement, des chrétiens, au bout de 40 ans de vie chrétienne, ils disent « Ah, mais je suis fait comme ça ». Ça, c'est l'excuse la plus inacceptable. Tu es fait comme ça, mais Dieu ne veut pas que tu restes comme ça. C'est vraiment la parole de Dieu pour nous. Si l'Évangile n'est pas assez puissant pour changer ma colère, pour changer mon orgueil, pour changer mon manque de maîtrise de moi, ben à quoi bon être chrétien? L'Évangile, c'est la nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, elle s'implante en nous et Dieu la fait grandir petit à petit. Quand on vient à Dieu, on est un bébé, n'est-ce pas? Mais le bébé, il ne peut pas rester bébé. Oui, au lait. Mais malheureusement, il y a des chrétiens au bout de 40 ans, ils sont toujours des bébés. Mais vous savez, un bébé qui ne grandit pas, les parents l'amènent au médecin pour dire « il y a un problème, là, on ne comprend pas ». Il a un manque de croissance, il a un problème de santé. Un chrétien qui ne grandit pas, c'est un chrétien qui a nécessairement un problème de santé spirituelle et il a besoin de changer. On peut avoir des difficultés, mais il ne faut pas se réfugier derrière l'idée « je suis comme je suis, c'est bon ». Non, il faut au moins dire « j'ai du mal avec ce problème, j'ai du mal avec la colère ». C'est vrai, quand mon enfant fait n'importe quoi, j'éclate de colère dans la maison, mais je combats et je veux que Dieu change ma vie. Ça, c'est la bonne démarche. Dire « ben non, c'est comme ça, tant pis », ça, c'est pas acceptable. C'est bon? Eh bien, maintenant, puisque nous avons parlé de caractère, bon, entre parenthèses, hein, nous allons le voir tout à l'heure, le caractère dont nous parlons, le caractère le plus parfait, c'est celui de qui? Du Christ, n'est-ce pas? C'est au Seigneur Jésus qu'il faut regarder pour être un chrétien mature, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Oui, exactement, voilà. Ressembler au Seigneur Jésus, notre espoir suprême. Maintenant, oui.
Par rapport à ça, est-ce qu'on pourrait dire que Jean, qui est quand même quelqu'un de plus calme, est plus mature que Pierre, qui est quelqu'un de plus
impulsif, oui.
Plus impulsif.
Oui.
Est-ce qu'on peut évoluer dans notre caractère pour qu'il soit qu'on mature
Absolument.
Avec notre caractère, et est-ce que Dieu n'utilise pas notre caractère pour être dans cette multiplicité dans l'Église?
Bien sûr, Dieu ne veut pas qu'on soit homogène, mais notre caractère, quand c'est un défaut, Dieu ne l'accepte pas. L'impulsivité de Pierre n'est pas restée toute sa... Pierre était quelqu'un de fougueux, et ça l'a servi. Par exemple, quand il a parlé dans Acte 2, il a parlé avec assurance devant tout le monde, ce que Jean peut-être n'aurait pas pu faire. Mais il est sorti de la barque, etc. Ça, c'est pas un défaut en soi, mais il y a des traits de caractère qui sont des défauts que Dieu veut corriger en nous. Et on peut pas les garder en nous. Donc maintenant, alors, par groupe, vous allez faire un thermomètre de la maturité. D'accord? Vous allez le fabriquer et demain, vous allez voir les chrétiens et mettre le thermomètre et ça va vous donner la température de... Alors, je vous présente le travail que vous allez faire. Donc, vous voyez, thermomètre de la maturité. Vous allez identifier par groupe les domaines essentielles de la maturité. Par exemple, l'humilité. On peut pas faire un thermomètre de 40 degrés. Donc, je vous limite à 10 degrés. C'est pour vous obliger à faire des choix, d'accord? Si vous faites 40 degrés, alors là, on peut mettre tout ce qu'on veut. C'est pas intéressant. Donc, vous vous limitez à 10 degrés. Et donc, vous allez mettre en lumière, l'amour, le caractère, la parole, la prière, l'esprit, etc. Ce que vous jugez-vous être important. Donc, en groupe, vous allez définir les domaines essentiels dans lesquels la maturité devrait apparaître. Vous pouvez mettre comme vous voulez, vous pouvez le mettre à... Là, je vous ai mis un thermomètre sur votre carnet, mais le mieux, c'est de prendre une feuille peut-être grande pour avoir de la place pour écrire. Une feuille par groupe, une feuille A4 ou comme vous voulez. Donc, vous dessinez le thermomètre et vous mettez... Mais attention, il faut les mettre par ordre d'importance. oui, je sais bien, mais c'est vraiment pour vous imposer des choix. Dans tout ce qui est important, qu'est-ce qui est le plus important? Le numéro 1, c'est le moins fort et vous allez vers 10, le plus fort. Bon, chacun des groupes doit choisir un domaine, un seul, qui lui semble essentiel à partager. Bon, on va mettre en commun, si vous voulez bien. Je vais demander à deux groupes de nous donner la liste, sans commentaire ni rien, juste la liste que vous avez indiquée. Et après, chacun des groupes donnera le domaine essentiel pour lui. Alors, deux groupes. D'abord, deux groupes pour donner les 10 éléments qui semblent essentiels. Eh bien, Yves, vas-y, s'il te plaît.
Amour pour Dieu, foi, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, mais
amour pour Dieu. Ils ont triché, C'est un bon moyen, effectivement, prendre les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit et... Oui. Bon. Dis-moi ton prénom, s'il te plaît. Michael, vas-y.
Amour pour Dieu et les uns les autres, parole de Dieu, enseignable, prière, obéissance, humilité, sincérité, sagesse, discrétion, douceur.
Merci. Bon, maintenant, les autres groupes, quel est le domaine essentiel pour vous? Juste un, plus fort.
L'amour pour Dieu.
L'amour pour Dieu. Oui, c'était le même groupe. L'humilité. Oui. Enseignable. Oui. L'obéissance à la parole. Un autre groupe? Un autre groupe? La foi. D'accord. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est que chaque groupe a un domaine différent. Parce que la maturité relève aussi d'une intuition. Nous avons l'intuition de la maturité chrétienne et parfois nous avons du mal à la définir. Peut-être que celui qui est immature est reconnaissable facilement. Celui qui est mature, on a un petit peu plus de mal parce que quand il y a quelqu'un de mature, il peut avoir des traits, il peut avoir des éléments quand même qui ne sont pas nécessairement attirants et ça nous conduit dans l'erreur. Ce que je veux voir ici, c'est que le travail que vous avez fait révèle une chose, c'est que nous pouvons avoir une idée différente de la maturité, mais il y a néanmoins des points communs. Beaucoup ont parlé de l'amour pour Dieu principalement, Donc ça, c'est important. Qu'est-ce qui est revenu le plus, d'ailleurs, entre vous? L'amour. Donc ça, c'est une autre question hein, que je pose. Quelles dimensions sont revenues partout? Donc, peut-être l'amour, le caractère, on a entendu l'obéissance à la parole, on a entendu la prière, d'autres choses. Alors, moi, je mettrai pas la parole ou la prière. C'est important, mais il faut les définir. Il faut toujours, comme je vous ai dit tout à l'heure, lire pourquoi et prier pourquoi.
Mais est-ce que le fait de prendre l'amour ne se réfère pas au premier et au deuxième commandement?
Ben, c'est exactement ça. Oui. Alors, c'est ce que je vous proposerai tout à l'heure. En fait, moi, quand j'ai réfléchi à la question, je voulais écrire le livre, j'ai eu une démarche pour ne pas rester seulement dans l'intuition, mais vraiment voir si on peut avoir des éléments objectifs dans la parole de Dieu qui nous aident à définir la maturité. Pas simplement dire « je pense que », mais non, la Bible me dit « voilà quels sont les traits de la maturité ». Et donc ma démarche personnelle, ça a été effectivement d'abord de me poser la question, mais quel est le but de Dieu pour les chrétiens? En fait, qu'est-ce que Dieu veut pour chacun de nous? Quel est le but final, d'après vous? Voilà, c'est ce que nous avons dit. Le but de Dieu, c'est que nous ressemblions à Jésus. C'est que nous ressemblions au Fils de Dieu. Et ça, c'est très clairement indiqué dans deux passages, c'est-à-dire Romains 8, que nous connaissons par cœur, Romains 8, 28 et 29. Mais c'est... nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi... Avant, il les a aussi prédestinés à être semblables à son Fils. C'est vraiment le projet de Dieu pour nous. Pour vous donner une image, nous sommes tous comme des pierres brutes que Dieu a cherchées dans une carrière sombre. Mais Dieu, il veut pas que nous restions des pierres brutes. Il veut nous tailler. Ah, ça fait mal, hein. Nous façonner. Mais il ne nous taille pas au hasard. Dieu, c'est comme Michel-Ange. Il fait de nous une statue qui ressemble à Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, c'est le modèle que Dieu a devant les yeux. Et tout le travail que Dieu fait en nous, c'est pour que nous qui sommes des pierres devenions semblables à Jésus-Christ et que nous puissions nous ajuster à son caractère. C'est vraiment le plan final de Dieu, et Paul ne le dit pas simplement dans Romains 8, 28, il le dit aussi dans Éphésiens 4. C'est l'autre passage que je vous encourage à prendre le temps d'étudier. Donc il y a Hébreux chapitre 5 et Éphésiens chapitre 4. Et je vous propose de le lire ensemble, donc à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Même 16, c'est vraiment un passage extrêmement riche sur la maturité chrétienne. Est-ce que quelqu'un voudrait lire, s'il vous plaît? Donc, Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 16.
C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes, et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête de Christ. C'est lui que le corps tout entier bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour.
Merci. C'est vraiment un magnifique passage, hein. Alors, vous avez remarqué qu'il est question du chrétien. Quel est le mot que nous avons entendu dans la lecture? Alors, fait pour certains et adulte, d'accord? C'est le même mot qu'on trouve ici. Il est traduit soit par fait, soit par parfait, soit par adulte, soit par mature. On va revenir sur le mot, d'accord? Mais là, vous voyez que Paul nous dit que Dieu a fait don aux églises d'hommes et de femmes pour qu'ils servent dans la communauté, afin que toute la communauté tende vers l'unité de la foi et vers la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que tout le travail de la communauté, on peut dire qu'il y a des entraîneurs qui entraînent afin que toute l'équipe gagne. Donc, les pasteurs, les responsables, les serviteurs qui œuvrent dans une communauté sont là pour équiper la communauté afin que toute la communauté devienne une dans la foi et surtout qu'elle atteigne l'âge adulte ou la maturité chrétienne. Et cette maturité se mesure à Christ, pas les uns aux autres, hein. Parce que je trouverai toujours mieux que moi et pire que moi. On va dire, ah ben, je suis mieux que lui, ça va. Non, non, mesurons-nous à Jésus-Christ. Et on se mesure à lui, pas pour dire, oh là là, jamais je n'atteindrai ça. Non, c'est le contraire de que nous dit la parole, on est bien d'accord. Paul ne nous dit pas, mes petits gars, vous n'y arriverez jamais. Non, il nous dit au contraire. C'est l'idéal de vie que je vous présente et je vous invite à tendre vers la stature de Christ. Donc, moi, ce qui me fascine dans les Écritures, c'est vraiment cette vie chrétienne qui nous est offerte. Elle est juste extraordinaire. Et c'est vrai que vivre dans la médiocrité, c'est tellement triste. Et Dieu nous appelle à quelque chose d'extraordinaire. Une vie abondante, une vie dans la paix, dans la joie, une vie dans la communion, dans la fraternité. Bref, une vie nouvelle, une vie différente. Et on n'a pas le droit de rester dans une vie médiocre, parce qu'on ne présente rien aux autres qui est enviable quand on est dans la médiocrité. Et donc, peu importe où nous en sommes, que Dieu nous donne un cœur en disant, mais nous voulons vraiment vivre cette vie que Dieu nous présente dans sa parole. Cet idéal de vie chrétienne qui est ici un idéal juste extraordinaire, parce qu'il nous dit, eh bien, quand nous tendons vers cette maturité, vers l'unité de la foi, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, nous ne sommes plus des enfants. Ben, c'est normal, hein. Nous sommes des adultes, donc nous avons abandonné l'enfant. Quel est le propre d'un enfant? Ben, c'est que vous lui dites A aujourd'hui, il vous croit, et vous lui dites B demain, et il vous croit. Et vous trouvez l'enfant qui est ballotté à tout vent d'idées. On lui dit noir, c'est noir, on lui dit blanc, c'est blanc, il croit tout. Il fait confiance, c'est vrai. Mais parfois, cette confiance, elle est trompée. Et c'est ce qui arrive aux chrétiens quand il n'y a pas de maturité. Ben, on nous dit A, on le croit, on nous dit B, on le croit, et on est trompé par les doctrines fausses, comme le dit Paul, hein. Il dit ballotté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse. Donc, l'une des qualités de la maturité chrétienne, c'est la stabilité dans la foi, mais je sais ce que je crois. Et ce n'est pas le dernier venu sur YouTube qui va me dire le contraire. Les chrétiens sont ravagés par YouTube. Mais je vous assure, hein, moi, dans notre église, il y a des gens, ils me parlent, mais comment est-ce qu'on peut gober des choses pareilles, quoi? Plus c'est absurde, plus les gens le croient. Mais c'est étonnant. Mais l'un des traits de la maturité chrétienne, c'est cette fermeté dans ce que je crois, et je sais ce que je crois. Et je sais tellement ce que je crois que je suis capable de le transmettre. Je ne peux pas peut-être transmettre tout de la parole de Dieu, mais il y a des choses qui sont fermes dans mon cœur et je peux les défendre et les transmettre à d'autres. Bien sûr. Oui. C'est vrai. La vérité, c'est exactement ce que Paul dit après, hein. En professant la vérité dans l'amour. Alors ça, c'est les deux qui vont ensemble. Hein. La vérité dans l'amour. Parce que la vérité sans l'amour, c'est la dureté. Et l'amour sans la vérité, c'est la mollesse. Mais c'est vraiment les deux. C'est la vérité dans l'amour. Dire les choses avec amour, ça, c'est un trait de caractère de la maturité. Je développe pas plus, je vous encourage vraiment à le relire, à prendre le temps de le méditer, peut-être lire un commentaire de ce passage, un commentaire simple, parce que c'est très très dense et ce que Paul dit est vraiment fondamental. Donc pour revenir à ma démarche, moi je me suis arrêté sur ces passages qui parlent de la ressemblance au Seigneur Jésus-Christ. Je sais ce que Dieu veut que nous soyons comme son fils bien-aimé. Après, j'ai commencé à chercher le mot qui est traduit des fois par adulte ou par parfait ou par mature. En fait, c'est le mot qu'on trouve dans la Bible, dans tous les passages que nous avons lus et dans d'autres. C'est le mot téléios. Je vous donne le mot grec, hein, téléios. Donc, souvent, elle est traduite par parfait et c'est un mot qui nous trompe. Parce que nous, en français, lorsque nous entendons parfait, nous pensons à la perfection morale, absence de péché. Mais le mot téléios dans ces passages que nous avons lus ne se rapporte pas d'abord à la perfection morale, mais à autre chose. Il a plusieurs sens dans la parole que nous allons voir, et ces sens-là nous aideront justement à déterminer la maturité chrétienne. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé dans la Bible où se trouve ce mot, il existe 19 fois, et j'ai regardé les versets, les passages, pour essayer de les regrouper ensemble afin d'aboutir à des caractéristiques à travers ces passages qui emploient ce mot, à des caractéristiques de la maturité chrétienne. Et donc j'en ai choisi combien d'après vous? 10. C'est pour ça que vous avez fait un thermomètre de 10. Hein. Ben, on peut choisir 20, mais si vous en prenez trop, ben, ça devient dilué. 10, pourquoi? Ben, parce que c'est les 10 commandements. Hein. Donc, le premier sens du mot, c'est être une personne à qui il ne manque rien. Alors, ce passage, ce sens, nous le trouvons dans plusieurs passages, notamment Matthieu, et je vous demande maintenant de le lire, Matthieu, chapitre 19. C'est l'histoire du jeune homme qui est allé voir Jésus. Et vous vous rappelez qu'il a posé la question à Jésus: que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus lui répond? Avant, il lui dit, ben voilà, tu mets en pratique les commandements, la loi. Et donc, le verset 20, est-ce que quelqu'un voudrait lire 19, 20, s'il vous plaît? Matthieu.
Honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je me lui dis, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que veux-tu encore?
Merci. Donc, la réponse ou la question du jeune homme est très importante. Il dit à Jésus, qu'est-ce qu'il me manque? Et qu'est-ce que Jésus dit exactement après? Si tu veux être parfait, ça veut dire si tu veux qu'il ne te manque rien, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Et c'est le mot téléos. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il me manque? Jésus dit, si tu veux être parfait, autrement dit, si tu veux qu'il ne te manque rien. Et là, on attendrait que Jésus lui dise, bah, t'as besoin de ça. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Bah, vends tout ce que tu as. Il te manque quelque chose, en fait. Il te manque que tu es encore chargé de richesses qui t'accablent. Mais vous voyez que ce que dit le Seigneur ici est très important. La perfection, ou être parfait, ou être mature, ce n'est pas être sans aucun péché, mais c'est être un homme ou une femme accompli. D'accord? C'est ça le mot, être accompli, ça veut dire être une personne à qui il ne manque rien. Mais il ne me manque rien au niveau de quoi? J'ai une maison, une voiture, un avion. Non, c'est parce que Jésus met en avant, n'est-ce pas? C'est ce que certains disent aujourd'hui. Si tu es un chrétien parfait, tu vas avoir un jet privé. Non, ce que Jésus met en avant pour le jeune homme, c'est bah, débarrasse-toi ton argent. C'est pas cherche à en avoir plus, débarrasse-t'en. Et surtout, tu vas avoir quelque chose que dont tu as besoin maintenant, et c'est quelque chose qui se rapporte au caractère. D'accord? Donc, s'il me manque quelque chose, je le cherche auprès de Dieu pour devenir ou être un homme accompli. Et ce sens-là, ben, on le retrouve dans Jean, non pas dans Jean, mais dans Jacques chapitre 1. Donc, on va lire Jacques chapitre 1, versets 1 à 3. Voilà, si quelqu'un veut le lire, s'il vous plaît. Je reste toujours sur le premier sens, d'accord? Une personne à qui il ne manque rien. Ben, lisons 2 à 4. Jacques chapitre 1, 2 à 4.
Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien.
Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une autre traduction? Second 21 ou Summer? Vas-y, s'il te plaît.
Second 21. Les frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien.
Voilà. Et qu'il ne vous manque rien. Sans faillir en rien, c'est exactement ça, qu'il ne vous manque rien. Vous voyez, Jacques dit, quand vous avez des épreuves, ça va produire en vous de la persévérance. Et la persévérance va accomplir une œuvre dans votre vie. Et cette œuvre, c'est quoi? C'est que vous soyez parfait, c'est-à-dire des hommes accomplis, ou alors des hommes à qui, c'est exactement ce qu'il dit dans la suite, n'est-ce pas? À qui il ne manque rien, sans faillir en rien. Donc vous voyez que l'idée ici, c'est des gens peuvent manquer de persévérance. Dieu envoie les épreuves pour produire cette persévérance. Pourquoi? Bah, pour que cette persévérance s'ajoute à notre vie, afin qu'il ne nous manque pas cet aspect dans notre vie. Et la persévérance produit d'autres choses dans notre vie. Et vous remarquez que le verset 5 enchaîne sur cette idée de perfection et de manque. Qu'est-ce que le verset 5 dit? Mais si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Voilà, on cherche des chrétiens parfaits, mais on peut manquer de choses. Et c'est là où nous avons besoin de nous tourner vers le Seigneur pour les lui réclamer afin de tendre vers cette maturité et devenir des chrétiens matures. Le deuxième sens du... Oui, pardon. Oui, c'est vraiment le même mot. Hein. Être accompli, avoir une plénitude. Hein, le mot plénitude et accomplissement, c'est la même chose. Donc, le deuxième sens de ce mot téléos qu'on trouve dans la Bible, c'est l'idée d'âge adulte en opposition à enfant. On l'a déjà lu dans Éphésiens chapitre 4, hein, vous vous rappelez. Paul dit, des hommes parfaits qui ont atteint la stature parfaite de Christ et non plus des enfants. Donc il met l'opposition entre les teleioi, c'est-à-dire ceux qui sont parfaits, et puis ceux qui sont des enfants. On a un passage dans 1 Corinthiens qui nous aide à voir vraiment cette opposition. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20.
Frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants. Au contraire, pour le mal, soyez des bébés, mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes.
Merci. Donc vous voyez que là, dans ce verset, Paul fait une opposition entre les bébés et les adultes. Mais le mot adulte, c'est le mot téléos. D'ailleurs, dans d'autres traductions, il est question d'hommes faits. D'accord? Ne soyez pas des bébés, mais des hommes faits. Ne soyez pas des enfants, sauf à l'égard du mal, mais au contraire, soyez des hommes faits. Est-ce que c'est clair pour vous, ça? Donc, il y a l'idée de plénitude, on ne manque de rien quand on est mature. Il y a l'idée d'être adulte, et c'est vrai que en tant que chrétien, à un moment donné, on doit devenir adulte dans la foi. Et il y a un troisième sens qu'on trouve dans la Bible, c'est être conforme au but pour lequel on a été créé. Je vous donne un exemple. On fabrique une barque dans l'Antiquité, d'accord? On ne sait pas si elle va prendre l'eau ou non. Donc, on la teste. Elle prend pas l'eau. On dit elle est parfaite. C'est vrai, elle est étanche, mais elle est surtout parfaite. Ça veut dire que elle va accomplir ou faire la chose pour laquelle elle a été fabriquée. Elle a été fabriquée non pas pour couler, mais pour naviguer sur l'eau. Donc elle a été, ou elle est conforme au but pour lequel elle a été créée. Et ce sens est très important parce qu'il nous montre aussi que lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés pour un but. Et quand nous nous inscrivons dans le but de Dieu pour nous, nous ne faisons rien d'autre que ce pourquoi nous avons été faits. Et donc nous sommes des hommes et des femmes matures dans la foi, parce que nous sommes des teleioi, d'accord? Le mot teleios a ces trois sens. Donc si je reprends la signification de manière générale, ben je vais dire que le chrétien mature, c'est un chrétien dont le caractère est achevé. Achevé par opposition à manque, d'accord? À qui il ne manque rien, ni amour, ni sagesse, ni foi, ni persévérance, etc., etc.
Juste, le chrétien mature est celui dont le caractère est achevé. On a un peu l'impression qu'il devient parfait, parce que du coup, il y a aussi quand même une réalité de l'oubli. Donc, on a l'impression que... Parce que du coup, on n'arrive jamais à cet état de fait. Oui, toi, tu comprends
Oui, je comprends. Mais, oui.
Qui ne manque rien, ni amour, sagesse, foi, persévérance. On est encore en chemin.
On est en chemin dans le sens où j'ai de l'amour, j'ai de la sagesse. Peut-être que ces caractères ne sont pas pleinement développés en moi, mais je les possède quand même. Un chrétien qui est totalement colérique, ben on peut pas dire qu'il est mature parce qu'il y a le manque de maîtrise de soi qui est là. Mais s'il travaille sur la maîtrise de soi, ben il est sur le chemin de la maturité. Donc, on peut parler sur chemin de la maturité si vous voulez, parce que des fois, c'est vrai que ça peut sembler faire peur, mais le plus important pour nous, c'est d'avoir cette idée, cette image du chrétien mature et tendre vers cette image-là. Mais si on n'a pas l'image dans la tête, ben on tend vers quoi? vers le vague, vers le vide. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a besoin d'une destination. Alors, bien sûr, comme Paul l'a dit, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours vers le but. Et après, il peut dire, mais nous sommes des hommes matures, des hommes faits. Donc, ce n'est pas une contradiction en soi. Bien.
Est-ce qu'on peut avoir l'assurance, la certitude d'être là où Dieu nous veut?
Ça fait partie du trait de caractère du chrétien mature. Bien sûr, c'est très important de savoir que je ne suis pas à la mauvaise place. Là où je suis, c'est la volonté de Dieu pour moi. Un chrétien mature connaît la volonté de Dieu. Voilà, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Donc, oui, bien sûr.
En lien avec 1 Corinthiens 14, 20, parce que le caractère, c'est visible, mais les pensées, c'est pas forcément visible. Et vous mettez dans quel registre le fait de pouvoir discerner.
Je pense que la pensée et le caractère sont absolument liés, le caractère est le fruit aussi de nos pensées. Ce que nous pensons se traduit par ce que nous faisons, qui est la conséquence de notre caractère aussi. Tout est lié, oui. Ce que nous pensons, et il y a quelqu'un qui dit souvent, je suis ce que je pense. Si je pense être le meilleur, je vais me comporter de manière arrogante, etc. Si je pense que je ne vaux rien, ben je vais me comporter comme quelqu'un qui ne vaut rien, et ainsi de suite.
Tu viens de parler de refléter, d'être conforme au but pour lequel on a été créé, tu vas le développer.
Non, il faut que je passe un petit peu là, pour avancer. Mais qu'est-ce que tu voudrais développer?
Le but pour lequel on a été créé, c'est de refléter la gloire de Dieu.
Absolument.
Et c'est ce qu'il avait déjà prescrit à Israël, en lui disant, en voyant la manière dont vous vous comportez,
oui, tu as tout à fait raison. Le but suprême, c'est glorifier Dieu, et on le glorifie en devenant conforme au Seigneur Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. Oui.
Est-ce que c'est être conforme au but pour lequel Dieu a créé l'humain ou nous a créé individuellement?
Nous a créé nous en tant que chrétiens. C'est-à-dire que lorsque Dieu a créé, nous étions dans la pensée de Dieu. Dieu nous a choisis avant la création du monde. C'est-à-dire que de toute éternité, nous étions dans la pensée de Dieu, mais nous n'étions pas dans la pensée de Dieu comme un brouillard. Nous étions dans la pensée de Dieu de manière exactement précise et claire. Voilà, comme dans Romains 8, ceux qu'il a prédestinés, enfin ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés à être semblables à son Fils. Donc, il y a vraiment cette idée que Dieu a un plan, comme Romains 8, 28 le dit, et ce plan, c'est de nous rendre conformes à son Fils. Et donc, ça, c'est le but. Et le but suprême, c'est pour que le Fils soit glorifié, pour qu'il soit le premier entre une multitude de frères et de sœurs. Donc, le chrétien mature, c'est celui qui agit en fonction de ce but pour lequel il a été créé. Glorifier Dieu, l'honorer dans sa vie, laisser toute la place au Seigneur. Mais ce qu'il faut vraiment bien voir, c'est que ça ne fait pas référence à la pureté morale. C'est pas un être sans aucun péché. C'est un être qui s'inscrit dans l'appel et la vocation de Dieu afin que Dieu développe en lui des qualités spirituelles qu'il lui a promis. Et le chrétien mature, donc, c'est un chrétien qui est passé de l'état d'enfance à l'état d'adulte. Bon, je pense que ça nous parle un petit peu plus. On voit qu'un enfant, il a certains traits de caractère qui ne sont pas de l'adulte. Et nous avons besoin d'abandonner ce qui est de l'enfant pour aller vers la maturité du croyant. Vous avez d'autres questions ou on continue? Bon, donc, Je vous ai dit, hein, moi j'ai pris ces passages qui emploient le mot teleios, donc homme mature ou parfait ou adulte. J'ai essayé de regrouper et je suis arrivé à la conclusion suivante, hein, c'est que les 10 traits de caractère, bon d'abord, un chrétien mature, c'est un chrétien qui aime Dieu. Mais moi j'irai un petit peu plus loin. Il aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Parce que aimer Dieu, c'est bien, mais l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, et le mettre en tout premier lieu dans notre vie, c'est vraiment le trait de caractère. Parce que tous les chrétiens aiment Dieu, mais notre amour pour Dieu n'est pas au même niveau. On peut aimer Dieu tout en étant immature dans la foi. Oui, j'aime Dieu, je veux vraiment le servir, je vais à l'église, j'aime bien chanter avec les chrétiens, mais il me manque tellement de choses dans mon développement de chrétien. Et notamment, mettre Dieu en tout premier lieu. Donc, c'est vraiment Dieu comme la perle de grand prix pour laquelle je suis prêt à tout vendre. Quand je dis tout vendre, c'est pas nécessairement ce que je possède en bien matériel, mais souvent, mon orgueil, ma fierté, c'est ce que nous avons du mal à délaisser pour la gloire de Dieu. Hein. Quand il y a deux chrétiens qui se chamaillent, bah, l'un des deux devrait dire, mais pour l'honneur de Dieu, je renonce à mon droit. Ça, c'est la maturité. Oui.
Tu viens d'amender Matthieu 19, 21. Je rêve que tu viens d'amender.
C'est-à-dire
ben, tu l'as... Donc, tout ce que tu viens de dire, même si c'est pas tout à fait, non, c'est plus, c'est
provocateur. Non, je n'ai rien amendé. Donc, aimer Dieu, et deuxième commandement, c'est aimer son prochain. Alors, moi, je dis pas prochain, je dis aimer les autres. Les autres, c'est-à-dire les frères et sœurs en priorité, mais aussi élargir le cercle aux non-chrétiens et même aux ennemis. Ça, c'est le plus difficile, n'est-ce pas? Ben, le chrétien mature, c'est celui qui va au-delà du cercle restreint des amitiés pour élargir son amour à tous les chrétiens et à ceux qui ne le sont pas. Donc là, je donne juste les caractéristiques. Exactement. Non, je donne les caractéristiques qui ont... continue après. Le chrétien mature, donc, aime Dieu de tout son cœur. Le chrétien mature aime les autres. Bon, j'aimais ça en tout premier lieu. Vous comprenez pourquoi. C'est les deux plus grands commandements. Le plus grand commandement est le deuxième qui lui est semblable. Ensuite, le chrétien mature a des habitudes spirituelles. Donc, ça, c'est vraiment fondamental. On y reviendra. On ne peut pas devenir un chrétien mature si on n'a pas une discipline spirituelle, des habitudes. Attention, les habitudes ne font pas le chrétien mature, mais les habitudes permettent la maturité chrétienne. Le chrétien mature lit la parole, mais je ne le dis pas comme ça. Parce qu'un chrétien est censé lire la parole. Donc dire le chrétien mature lit la parole, c'est pas suffisant. Moi, je pense que le chrétien mature, c'est celui qui lit la parole avec profit. C'est-à-dire que sa lecture est intentionnelle parce qu'il cherche la nourriture spirituelle dans sa lecture. Le chrétien mature prie, mais je ne dis pas juste le chrétien mature prie, je dis que le chrétien mature fait de la prière l'expression de sa dépendance à l'égard de Dieu. Ensuite, le chrétien mature marche selon l'esprit. Ensuite, le chrétien mature connaît la volonté de Dieu. Ça, c'est vraiment fondamental. Il y a des chrétiens qui se posent toujours la question, mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Mais le chrétien mature sait ce que Dieu veut pour lui. Le chrétien mature accepte la souffrance. Et plus encore, il voit dans la souffrance le travail de Dieu pour lui. Le chrétien mature est reconnaissant. Et enfin, le chrétien mature est un témoin. Voilà, 10 caractéristiques. On peut discuter, on peut changer une par une autre, mais c'est en m'appuyant sur l'emploi du mot « homme fait, homme chrétien » que j'ai pu développer ces choses-là. Donc, on va prendre ces points en détail.